radiolibertaire.org et vous trouverez un petit onglet en bas de la page internet, en bas à droite. Vous pouvez cliquer dessus et pouvoir, si vous le désirez, bien sûr, nous soutenir d'ici quelques instants. Une autre émission de Civis Pacem. Voilà, je vous laisse quelques instants et l'émission Civis Pacem va pouvoir démarrer. Merci à vous toutes et à vous tous.
Un bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous allons parler dans notre émission d'aujourd'hui d'un conflit qui dure depuis plus de 70 ans, le conflit israélo-palestinien. Vous savez tous que depuis l'attaque de la branche armée du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, un regain de tension entre les deux peuples a conduit à une nouvelle guerre meurtrière. Le Hamas a commis des crimes de guerre dans les villages proches de la frontière avec Gaza. Le gouvernement fascisant d'Israël a demandé à l'armée israélienne d'éradiquer le Hamas. L'armée israélienne a commis pendant plusieurs mois des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Crimes de guerre qui ont fait à ce jour, le 19 décembre 2023, 18 000 morts palestiniens et plusieurs dizaines de milliers de victimes. Le Hamas, lors de son attaque, a pris plusieurs dizaines d'otages. Les familles des otages israéliens demandent la libération des otages à n'importe quel prix. Et elles ne font plus confiance au gouvernement qui prétend ramener les otages avec des opérations militaires qui détruisent toute la bande de Gaza. Ce gouvernement israélien d'extrême droite n'écoute aucune voix internationale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat pour sauver des vies. À ce jour, le 19 décembre 2023, nous ne pouvons pas savoir comment se terminera cette cinquième attaque de l'armée israélienne contre les Palestiniens de Gaza. Mais nous pouvons essayer de mieux comprendre ce conflit avec des personnes qui connaissent depuis longtemps la situation des Palestiniens. Joël et Dominique, cofondateurs de l'association France-Palestine Solidarité de Rennes, se trouvaient en Cisjordanie, à quelques kilomètres de Gaza, le 7 octobre 2023. Ce sont eux qui vont nous raconter dans cette émission ce qu'ils ont vécu pendant cette période guerrière. J'ai pu faire avec eux un entretien par visio le 19 décembre 2023. Le son n'est peut-être pas parfait, mais leur témoignage est essentiel. Alors nous les écoutons.
Donc vous faites partie d'une association qui s'appelle Association France-Palestine Solidarité de Rennes. Et vous l'avez créée en quelle année, cette association ?
Voilà, vas-y.
En 1988.
En fait, on l'a créée à plusieurs, hein, on n'était pas seul, évidemment.
Et alors, donc ça veut dire que vous vous intéressiez à la Palestine, mais j'imagine que vous aviez d'autres causes aussi à défendre. Pourquoi vous avez choisi la Palestine à ce moment-là ?
C'est évidemment, pour une part des circonstances. Moi, quand j'étais jeune étudiant, autour de moi, il y avait des étudiants libanais, palestiniens, jordaniens, etc. Et donc, dans les années 70, évidemment, la question commençait à devenir vraiment très très prégnante, notamment après l'invasion par la Syrie à l'époque. On avait été fortement préoccupé. Et puis ensuite, Israël, évidemment, y est intervenu militairement aussi. Donc, c'est un peu ça, les circonstances de départ, quoi.
Alors, vous êtes allé, après plusieurs années en Palestine, hein, vous êtes allé pour différentes raisons. Alors, vous pouvez nous dire peut-être d'abord aussi pour quelles raisons vous êtes rendu sur place, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie d'associations pour la Palestine. Heureusement qu'il y en a beaucoup, enfin beaucoup, pas assez pour nous, mais il y a quand même, disons, quelque chose qui vous a presque obligé à aller sur place.
Oui, c'est ça. En fait, à l'époque, à la fin des années 80, l'association qui s'appelait pas encore France-Palestine Solidarité, d'ailleurs au niveau national, qui s'appelait juste Association France-Palestine pour ce qui nous concernait, accueillait des enfants palestiniens venant des camps de réfugiés du Liban ou de Palestine occupée, de Gaza en particulier. Et en 1990, parmi les enfants qui sont arrivés, il y avait une jeune fille qui avait 14 ans à peu près et qui présentait des symptômes graves. Enfin, et puis on s'interrogeait sur les raisons de ce problème, quoi. En 1989, l'armée israélienne était entrée dans le réfugié où elle allait à l'école, le camp de et il y avait eu une espèce de provocation dont les Israéliens habitués, enfin souvent ils procèdent de cette manière-là. Ils avaient balancé des grenades lacrymogènes dans les classes. L'une d'entre elles lui avait crevé l'œil. À la suite de cet événement, l'armée israélienne avait finalement quand même reconnu sa responsabilité. Et puis la gamine avait été envoyée dans un hôpital israélien pour des soins. Donc une prothèse lui avait été installée. Quand elle est arrivée ici, on avait pris rendez-vous avec le CHR de Rennes pour voir ce qui se passait. Et les ophtalmos se sont rendus compte qu'en fait, on lui avait installé une prothèse d'occasion qui était très, très abîmée. Comme disait le médecin, c'est comme si on l'avait rayé sur du béton. Il y avait des éclats de verre en fait dans le fond de cette prothèse, et du coup ça lui coupait le fond de l'œil, donc d'une manière assez dégueulasse en fait. Sous prétexte de la soigner, ben en réalité ils avaient provoqué un problème Et du coup, il proposait de faire des soins au CHR de Rennes et en disant, les soins proprement dit plus la fabrication d'une nouvelle prothèse, ça demandera à peu près 5 mois. Or, la gamine était venue juste pour des vacances, 1 mois pendant l'été. Il fallait que quelqu'un aille rencontrer ses parents là-bas. Et puis discuter aussi avec le consulat général de France à Jérusalem pour obtenir une prolongation de son visa de façon à ce qu'elle puisse rester. Et c'est moi qui m'en suis chargé. Donc, mon premier voyage, ma découverte de la Palestine en chaise, ça a été à cette occasion.
Et alors là, vous vous êtes rendu chez les parents de cette jeune fille ?
Oui, tout à fait, oui. C'était des gens qui vivaient dans une assez grande beauté. Je me rappelle que la maison, c'était une maison qui était encore plus ou moins en construction. C'était du béton en fait. Il y avait des tapis au sol, mais il n'y avait pas de fenêtres encore. Enfin, c'était vraiment des conditions très très particulières. Et puis voilà, donc la rencontre s'est faite. On avait une amie française qui travaillait à ce moment-là à Jérusalem et à Ramallah et qui était arabophone, donc ça nous a permis de bien nous comprendre. Et évidemment, les gens étaient très contents, quoi. Donc ils ont donné leur accord et puis on a pu entamer les démarches. Elle oui. s'appelait Iman. Elle a pu rester pour les soins. On a pu aussi l'inscrire à l'école quand ça a été le moment de la reprise des classes ici. Elle a très appris le français. C'était une gamine brillante.
Et est-ce qu'elle a appris à parler français alors?
Oui, très vite, très vite. Elle arrivait à se débrouiller très bien. Au bout des 5 mois qu'elle a passé ici, pour des échanges de la vie quotidienne, en fait, elle se débrouillait déjà très très bien, quoi.
Et donc c'était une gamine qui rêvait de faire études et qui ne cessait de dire je ferai jamais comme ma mère. Je ferai pas 10 enfants. Je veux être autonome. Elle voulait faire des études de médecine, etc. Et quand elle est chez elle, au bout de ce temps de soins en France, en fait, son père était décédé. Il avait des problèmes respiratoires. Il y avait eu des tirs de grenades lacrymogènes. Il avait suffoqué et papa était décédé. Et du coup, elle se retrouvait une des filles aînées. Et cette petite-là, elle habitait donc dans le village de Beit Hanoun. On a entendu parler régulièrement ces derniers temps, dont il ne reste plus rien. C'est un village au nord de la bande de Gaza, à côté de l'entrée des Reds. Ce village a été totalement rasé. C'est un village qui n'est pas très loin du camp de réfugiés de Jabalia, qui lui aussi a été totalement rasé. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'elle est venue. Pendant tout ce temps, on a pu retrouver une fois, en 98. Les autres fois, on n'a pas pu, parce que, en fait, la bande de Gaza, déjà avant 2007, n'était pas ouverte en permanence. Et à chaque fois qu'on est allé là-bas, c'était fermé, donc on n'a pas pu y aller. On ne sait pas si elle est toujours vivante, on ne sait pas si elle est, à quel moment elle est morte, parce qu'il y a eu des bombardements tous les ans. Ici en France, on en parle guère, mais en fait, chaque année, il y avait des bombardements, et en particulier sur le nord de la bande de Gaza. On ne sait pas si elle est en ce moment à Rafah ou sous terre. Voilà.
Mais donc, aujourd'hui, vous ne savez pas où elle est, ni si elle est encore vivante, malheureusement. Mais vous avez pu correspondre plusieurs années avec elle, alors ?
Non, c'était difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones mobiles. Un seul téléphone dans le quartier, donc il fallait que le voisin prenne communication, aille la chercher. Et quand on est allé par la suite donc en Cisjordanie, parce que pour aller à Gaza, c'était impossible, enfin surtout après le blocus de 2007, a tout été régulièrement ravagé, quoi. Donc,
parfois, on a eu des nouvelles par des habitants de Gaza, en particulier un médecin qui s'appelle Rajis Souni, qui est un des fondateurs d'une association de défense des droits humains à Gaza. On l'avait vu en France, il nous avait dit qu'elle allait bien. Alors ça, c'était il y a combien? Il y a
10 ans.
Peut-être 10 ans. À ce moment-là, on savait qu'elle était toujours, enfin, pas de nouvelles.
Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs. De mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie. École, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur. Et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissants comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'a avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, qui reste spectateur, voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson du musicien suisse Michel Buller, chanson dédiée à Gaza. Dans cette chanson, Michel Buller parle des bombardements de l'armée israélienne sur Gaza en 2014. Ceci nous prouve qu'en 2023, les bombardements sur Gaza ne sont pas les premiers. Pour parler de la situation actuelle en Palestine, j'ai demandé à Joël et Dominique, membres de l'association France-Palestine Solidarité de Rennes, de nous raconter leur engagement pour les Palestiniens et leur expérience pendant leur dernier séjour en Cisjordanie en novembre 2023, période pendant laquelle une nouvelle guerre a été déclarée par Israël contre les Palestiniens de Gaza. Joël et Dominique nous ont dit dans la première partie de l'émission comment ils se sont rendus en Palestine pour la première fois. Ils ont fait depuis de nombreux séjours en Cisjordanie.
Donc après vos séjours, c'était plutôt en Cisjordanie alors. Et oui, dans quel village ou petite ville de Cisjordanie vous êtes allé par la suite et pourquoi faire?
Alors, en 96 et 98, on est allé dans deux villages, à Jifna, un petit peu au-dessus de Ramallah, un petit village chrétien, et à Deristia, au nord, un village musulman. En fait, ce sont des villages très anciens, qui comportaient des restes de la cité médiévale, donc des bâtiments magnifiques, mais qui tombaient en ruine. Et en fait, on avait décidé, à des amis palestiniens, de restaurer ces bâtisses. C'était une manière de sauver le patrimoine, mais c'était aussi pour les transformer en centres socioculturels dans les villages, et en particulier en direction des femmes. On a fait ces deux chantiers internationaux qui, à l'époque, étaient financés par le ministère de la Ville, le ministère des Affaires étrangères, le centre culturel de France, le consulat général de France à Jérusalem. Et donc, on emmenait chaque année des groupes français là-bas pour une période d'un mois de travail. Voilà, donc c'était ça. Et puis ensuite…
C'était un mois de travail, mais avec des volontaires palestiniens. Et il est même arrivé une fois qu'il y a aussi une délégation de jeunes de l'ANC d'Afrique du Sud.
Non, vous avez donc rencontré des personnes non seulement en Palestine, mais celles qui venaient de France, celles qui venaient d'Afrique du Sud. Oui. C'était tous des personnes engagées, c'était tous des gens qui s'intéressaient beaucoup à la Palestine.
Alors, parmi les jeunes français, c'était variable. Il y avait certains jeunes qui, dès le départ, étaient intéressés par la Palestine, et d'autres qu'on a rencontrés par le biais d'associations caritatives, ou de maisons de quartier. À l'univers. Alors, c'était un public très différent. Il y avait des jeunes étudiants, il y avait des jeunes qui sortaient de prison. Il y avait des jeunes qui avaient eu un parcours scolaire chaotique et qui étaient allés en SECPA. Donc, c'était vraiment des groupes très, très composites. Et c'était ça qui était intéressant, justement. Donc, c'était aussi tout ce qui se passait à l'intérieur du groupe. À la fin des chantiers, les gamins qui n'avaient jamais fait d'études, finalement, avaient appris l'anglais avec leurs camarades étudiants. Donc, c'était bien. Et une autre chose aussi importante, c'est qu'on a toujours tenu à ce que tous les groupes qui sont en Palestine rencontrent des Israéliens anticolonialistes. Et donc, lors de ces chantiers, par exemple, Michel Warchavski s'est déplacé à rencontrer non seulement les jeunes des groupes, mais les gens du village. Et je me souviens qu'au moment de son départ, en fait, il y avait un vieux monsieur palestinien qui l'avait raccompagné jusqu'à sa voiture, et qui était très, très ému, qui l'avait embrassé et qui avait dit « Merci d'être venu, parce que c'est la première fois que je rencontre un Israélien qui ne tient pas un fusil, qui me respecte et avec qui je peux discuter à égalité. » Donc voilà, ça c'était l'époque des pieds. Normalement, les chantiers auraient dû continuer. On avait un accord de principe de soutien par l'UNESCO. Donc, pour un gros projet, mais en fait, la deuxième intifada est arrivée et toute la Palestine s'est retrouvée bloquée. Donc là, on s'est dit, bon, comment faire pour les aider quand même? Donner sur place, on a discuté avec eux. Et de là, en fait, est née l'idée de tion de cueillette d'olive. Donc, qui était un autre sujet, mais qui consistait à la demande des pays palestiniens, à les accompagner dans leurs champs situés à proximité des colonies ou des routes de l'apartheid. Parce que sans internationaux, en fait, ils ne pouvaient pas y aller. Donc, d'une part, ils récupéraient pas le fruit de leur travail, mais surtout, ça permettait à Israël, au bout de 3 ans, de déclarer les terres abandonnées, s'ils pouvaient pas y aller, et de les réquisitionner pour agrandir les colonies.
Les Israéliens, c'est un régime qui est un régime dont la finalité est d'expulser, oui, colonial, mais pas colonial au sens où on l'a pratiqué au 19e siècle ou au 20e siècle ici, c'est-à-dire que le système colonial français, anglais, etc., avait pour but l'exploitation de la main-d'œuvre et des richesses du pays. On le voit encore aujourd'hui à travers les déclarations de Netanyahou, par exemple, sa présence à l'ONU avec une carte sur laquelle on voit que finalement son objectif, c'est de conquérir la totalité de la Cisjordanie et de la Gaza pour les annexer à Israël. La logique d'expulsion du peuple autochtone a toujours été dans leur esprit. Ils ont eu recours à des stratagèmes, adossés à des logiques soi-disant légales. Et ils se sont instaurés un peu les héritiers de réglementations qui existaient auparavant ou de traditions qui existaient. Par exemple, dans l'Empire ottoman, une terre qui n'était pas cultivée pendant 3 ans tombait dans le domaine commun et du coup pouvait être accessible pour des gens, par exemple, qui avaient besoin de faire pâturer des troupeaux ou qui éventuellement demandaient une allocation d'un copain de terre pour la cultiver. Lorsque les Anglais ont eu le mandat à partir de 1920, après la Première Guerre mondiale, sur la Palestine et aussi d'autres pays de la région, ils se sont appuyés sur cette réglementation en disant, bizarrement, une terre pas cultivée pendant 3 ans devient propriété de l'État, ce qui était une espèce d'oxymore, puisqu'il n'y avait pas d'État, il y avait juste une puissance qui était là, mandataire, en attendant, soi-disant, une autonomie de gestion du pays par les gens qui y résidaient. Il y avait quand même une procédure qui était une procédure d'appropriation. Ce qui d'ailleurs a permis aux Anglais, à l'époque, d'en donner à des colons juifs qui s'installaient là-bas. C'est-à-dire que la terre confisquée à des Palestiniens ou à des propriétaires lointains, ça pouvait être des gens qui étaient installés en Syrie ou ailleurs, la terre n'étant plus exploitée, elle pouvait être transférée à des colons. Et c'est en grande partie ce qui s'est passé, ce qui a permis à la colonisation, déjà avant l'installation d'Israël, de se développer. Israël a conquis une partie plus importante que ce qui lui était octroyé par le plan de partage, par la guerre, ils ont utilisé le même principe en disant cette fois-ci une terre non exploitée pendant 3 ans devient propriété juive. Et là, on avait changé de registre, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans la logique de l'accaparement par l'État, mais dans une logique de sacralisation de la terre. Explique qu'aujourd'hui, par exemple, en Israël, des citoyens arabes, comme ils disent, israéliens, n'ont pas accès à ces terres, ils ne peuvent pas en acheter, puisqu'elles sont considérées comme étant propriété juive. Et là, les fondements de l'apartheid sont déjà présents. Du coup, évidemment, après 67, en Cisjordanie et à Gaza, ça a été le même principe. Alors, il suffit, par exemple, de commencer par installer un camp militaire, et de dire que ce camp militaire ou cette zone militaire est interdite d'accès, elles sont annexées. Et à partir du moment où elles sont annexées, on passe de l'occupation militaire à l'installation d'une colonie. Cette colonie, évidemment, génère à sa périphérie une zone de sécurité de 150 à 200 mètres à l'extérieur de ses limites. Et de nouveau, le système se met en place. Donc, on empêche les gens d'accéder à leurs terres et à les cultiver. Alors, c'est le système utilisé en ce moment, par exemple, par ce qu'on appelle les avant-postes de colonie. Vous avez une colonie mère qui installe à 2 ou 3 kilomètres de là juste un avant-poste avec un bungalow amené par une grue, une barrière de sécurité autour. Souvent, ben, évidemment, automatiquement, l'armée intervient puisque en Cisjordanie, le rôle de l'armée, c'est de protéger les colons. Donc, on a une protection militaire. Automatiquement, on alloue une installation électrique, on fait une injection d'eau. Et puis, comme entre la colonie mère et la colonie fille, on a tracé un chemin, bah, de part et d'autre, 150 mètres d'un côté, 150 mètres de l'autre, on va progressivement, annexer de l'air. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'appel à l'aide des paysans, quoi, qui disent, les zones où on nous interdit d'aller, on veut continuer à aller et on veut qu'une présence internationale nous permette d'attester de cette volonté de ne pas abandonner la terre. Alors, il y a eu une phase, par exemple, où il y avait des procès. Les paysans intentaient un procès colon et puis parfois, il y avait des décisions qui leur étaient favorables. Enfin bon, c'est toujours un peu provisoire, mais c'était l'objectif de tout ce travail-là qu'on a commencé dans 2001.
Lorsque les étrangers étaient présents donc là, est-ce qu'ils étaient aussi en danger, comme ça s'est produit de temps en temps, ou est-ce qu'on vous laissait cueillir tranquillement les olives?
Alors, c'était variable. Variable. Dans ça, en fait, notre présence seule suffisait à ce que les choses passent tranquillement. Dans le cas, les colons arrivaient, étaient menaçants, et l'armée ensuite arrivait et calmait plus ou moins les colons qui finissaient par repartir ou se mettre à distance. Autre cas, par contre, les colons étaient absolument hystériques, avaient en appui, et dans ce cas-là, bah, la solution, c'était de partir. Bah, on n'est pas là du tout pour jouer les héros. Parce que s'il y a le moindre problème, le moindre affrontement, après, ce sont les Palestiniens qui le payent cher. Donc, en fait, on les laisse seuls guides de ce qu'il faut faire. Et quand ils nous disent, bon, c'est fini, là, on part, c'est dangereux, on repartait. Donc, en fait, quand on est là-bas, on est très, très protégé par les amis palestiniens qui, en fait, veillent à notre sécurité par-dessus tout, quoi. Voilà.
La ville est froide, la lumière gluante, ce sont les mois noirs maintenant. La ville est froide, je ne sais pas du tout pourquoi, c'est toi que je défends. Oh non, je ne suis pas sûre. De toi, j'ai du tourment. Il n'y a que des prisons du monde dont je sois vraiment sûre à présent. Il n'y a que des prisons du monde dont je sois vraiment sûre à présent. On a vu passer les étourneaux et je crois qu'ils se sont trompés de bord. Ou c'est moi qui perds mon bon sens, moi-même qui aurais perdu le nord. L'émigration se trompe parfois de direction. Il n'y a que les prisons du monde qui ne se trompent pas de région. Il n'y a que les prisons du monde qui ne se trompent pas de région. Neige serrée en Bretagne venant en avril. Plein été en Kabylie, la pluie âcre transperçait mes paupières fragiles. Si les saisons mélangent soleil et dépression, il n'y a que les prisons du monde qui soient pérennes sur l'horizon.
Il n'y a que les prisons du monde qui soient pérennes sur l'horizon. Tout change, tout craque, tout crépite dans les brasiers, je prends tes regards. Des gestes qui tracent des dessins précieux qui habiteront ma mémoire. Sous mes ailes translucides, mes ailes affamées, il n'y a que les prisons du monde, elles qui n'auront jamais faim, jamais. Il n'y a que les prisons du monde, elles qui n'auront jamais faim, jamais. Oh, mon amour, ne t'en fais pas, cet hiver encore, cet hiver rien n'ira. La coupure de la nuit, la douleur du bonheur, tout ça finira. La joie à nos héros nous apprend à partir. Il n'y a que les prisons du monde qui soient faites pour n'en pas finir. Il n'y a que les prisons du monde qui soient faites pour n'en pas finir. Rien n'est parfait, toi non plus, qui ne saura jamais dire pardon, dire merci. La règle d'or du milieu des tueurs est posée sur ta table de nuit. Les assassins taisent, l'amour n'est pas leur pain. Il n'y a que les prisons du monde que le silence protège bien. Il n'y a que les prisons du monde que le silence protège bien. Je pense à toi jusqu'à ton nom, jusqu'à ta vie. Je ne souhaite rien, je suis très incertaine moi-même. Entre mes ailes est perfectible à l'infini. Moi qui tiens à mes rêves autant qu'à m'épargner. Il n'y a que les prisons du monde qui n'aient pas besoin de protéger. Il n'y a que les prisons du monde qu'il n'ait pas besoin de protéger. Paraît qu'il n'y a pas de jardin de croix sur les paliers bleus de l'Éden. Qu'il n'y aurait pas sur ces hauteurs de supplique humaine qui ne s'éteignent. Je crois au sang des fleurs qui ne peuvent éviter qu'il n'y a que les prisons du monde qui soient sûres de l'éternité. Qu'il n'y a que les prisons du monde qui soient sûres de l'éternité. La vie, les froids de la lumière gluante, ce sont les mois noirs maintenant. La vie, les froides, je ne sais pas du tout pourquoi c'est toi que je défends. Oh non, je ne suis pas sûre de moi, j'ai du tourment. Il n'y a que des prisons du monde dont je sois vraiment sûre à présent. Il n'y a que des prisons du monde dont je sois vraiment sûre, vraiment.
Après cette chanson, Les prisons du monde de la musicienne bretonne Anne Christ, nous reprenons notre entretien avec Joël et Dominique, cofondateurs de l'association France-Palestine Solidarité de Rennes. Ils nous ont dit dans cette partie pourquoi les Palestiniens avaient besoin d'une protection internationale pour cultiver leurs oliveraies avec moins de risques.
Alors, donc le 2 octobre de cette année 2023, vous êtes reparti pour faire la cueillette des olives. Oui. Vous êtes arrivé donc avant le 7 octobre. Donc, vous avez vu dès le 7 octobre un changement dans ce qui se passait en Cisjordanie.
On est parti le 2 octobre alors que les cueillettes ne devaient commencer que le 15 parce que on était très inquiets. En fait, depuis un an, avec le gouvernement d'extrême droite fasciste, à la fois les déclarations étaient très très inquiétantes de la part du gouvernement et sur le terrain, les attaques ne cessaient pas. Tous les jours. L'Office des Nations Unies a décompté entre le mois de janvier et le 7 octobre un peu moins de 200 personnes palestiniennes tuées en Cisjordanie, Donc on sentait bien que cette année ne serait pas une année comme les autres, mais on n'imaginait absolument pas ce qui allait se passer sous cette forme-là.
Du coup, peut-être qu'on peut préciser aussi, les violences, c'était aussi des violences quotidiennes de la part des... les agressions contre les paysans n'ont jamais cessé. Les confiscations de matériel agricole, les confiscations de... ou les destructions aussi de villages bédouins, par exemple, par l'armée conjointement et les colons. Il y a des endroits, par exemple, où les colons déversaient du béton dans les puits qui étaient indispensables, par exemple, à l'élevage par ces communautés bédouines, des destructions d'habitations, etc. Donc ça, c'était la norme. Et puis, des attaques, on en a vu quand même se développer également, de plus en plus fréquemment, jusqu'à atteindre la proportion de véritables pogroms. Par exemple, à Ouara, un village, une ville qui est au sud de Naplouse, on a assisté à des incendies d'habitations, de magasins, à des destructions et aussi à des agressions physiques. Donc, il fallait qu'on vérifie que, en particulier lorsque les volontaires arriveraient, on n'aurait pas de difficulté à accéder au lieu d'hébergement et de coordination, on va dire, des cueillettes sur les deux zones dans lesquelles on est supposé intervenir. Donc, si on est parti à ce moment-là, c'était aussi pour vérifier que les choses se passeraient bien. Donc, on a commencé par aller au sud de la Cisjordanie, pas très loin de Bron, où on a rencontré donc les gens qui s'occupent de l'organisation des cueillettes. On s'est resté là une semaine, puis ensuite remonté dans le nord. Et finalement, tout est parti en vrille, quoi. Et là, évidemment, tout a changé, quoi. Tout a changé.
Alors, bien sûr que Joël, vous avez tenu un journal quotidien qui était très bien explicatif, en plus très bien écrit. Mais est-ce que vous le faisiez avant ou est-ce que vous avez commencé à le faire simplement le 7 octobre quand vous avez vu que la situation devenait dramatique qui arrivait justement pour les Palestiniens?
Alors, en règle générale, pendant les cueillettes d'olives, les volontaires envoient toujours un petit compte-rendu de leur journée pour que ce soit publié. Donc, comme nous, on était là-bas, on pensait le faire aussi. Bon, il se trouve qu'en fait, ce petit jour, j'ai commencé à l'écrire en me disant, allez, tiens, jette mes idées, je fais un point sur mon état d'esprit avant de partir. Cette partie-là, je ne l'ai pas envoyée, mais j'ai commencé comme ça. On est arrivé le 2, j'ai raconté ce qu'on voyait à Jérusalem. On est arrivé à la fin de la fête des cabanes, où toute la ville, la vieille ville en tout cas, était complètement envahie par les Juifs qui fêtaient leur fête des cabanes. Mais moi, ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est pas les manifestations religieuses, chacun fait ce qu'il veut, un souci du tout. Et ça peut être, une fête peut être aussi un partage et de avec les gens qui ne sont pas de la même religion. Mais là, c'était effectivement d'oppression parce que, en fait, toute la ville était vidée des Arabes. Et quand nous-mêmes, on s'est un petit peu promené le jour où on est arrivé dans la vieille ville, quand on était non-juifs, en fait, on était vraiment traité, je veux dire, sans ménagement, quoi, sans le minimum de courtoisie. Et c'était très... très étonnant. Et donc ensuite, on est parti et puis j'ai continué à écrire un petit peu comme ça tous les jours. Voilà. Mais c'était pas prémédité, on va dire.
Alors, voilà. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que les deux grands ministres fascistes là, les plus connus, Ben-Gvir et Smotrich, avaient appelé les colons à envahir Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de tous les points de la Cisjordanie, des colonies de Cisjordanie, une organisation logistique, des cars, etc. Et si la ville était remplie, moi j'ai envie de dire, elle était plus remplie par des colons que par des juifs. L'idée, c'était de marquer une présence extrêmement forte, etc. Au point, par exemple, qu'ils avaient installé des murs de son qui envahissait totalement l'espace sonore de la ville, pas seulement dans la vieille ville, mais ça résonnait à l'extérieur de la vieille ville. Et du coup, évidemment, il y avait des rites, des chants religieux, etc. à cette occasion. On avait vraiment l'impression que la finalité, et que ça rentre dans les oreilles de tous les habitants autour, que finalement, il mettait définitivement la main sur Jérusalem, quoi. Enfin, c'était, y avait ce sentiment-là extrêmement, extrêmement fort et violent, quoi.
Il faut se rendre compte que ce qui s'est passé le 6 octobre, ça a pas seulement surpris, mais sidéré tout le monde, et donc y compris les Palestiniens, qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Et la première réaction des gens qui étaient dans notre entourage, dans le quartier, à Al-Houl, c'était « mais c'est pas possible, on fait pas ça à des enfants ». Clairement, sans les mots que les gens disaient, ils disaient « des actions contre les militaires, des combats entre militaires, c'est une chose ». S'attaquer de cette manière à des civils, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Donc les gens étaient choqués. Ce genre de domination vis-à-vis des civils, le peuple palestinien le subit depuis des décennies, et en fait, peu de gens s'en émeuvent. Donc voilà, on n'a jamais eu de cri de victoire du tout par rapport aux horreurs commises sur les civils. Ces faits-là ne peuvent que desservir la cause du peuple palestinien. Enfin, il faut essayer d'y voir clair. Donc, leur première réaction, il y a eu entre 24 et 48 heures de flottement, mais on se demandait ce qui allait se passer. Quand on téléphonait aux amis israéliens, c'est pareil, ils étaient aussi sous le choc et ne sachant pas comment les choses allaient se passer. Et puis les bombardements ont commencé. Et là, nous, on était à Arlis, on était à Al-Houl, c'est à la même sud que Gaza. Quand on montait sur les collines, on voyait les bombes tomber sur Gaza. Et 2 minutes après le bombardement, on entendait le bombardier qui passait au-dessus de la maison pour aller refaire leur stock. Donc, c'était vraiment en continu, nuit et jour, sans interruption. Et concrètement, sur le terrain en Cisjordanie, dès le 7 octobre, l'armée israélienne a commencé à boucler toutes les villes et tous les villages. C'est-à-dire que Dominique est allé voir ce qui se passait pour voir si on pouvait sortir de la ville. Il y avait des blocs de rochers, des barrières installées, des soldats dans le Mirador qui visaient les gens, en leur disant « n'avancez pas ou on tire ». Quoi. Et c'était franchement pas de la rigolade. Et c'était comme ça sur toute la Cisjordanie, avec interdiction d'utiliser les routes. Alors les routes, les grandes routes qui sont des routes de l'apartheid, qui sont réservées aux colons, et en temps calme, les Palestiniens peuvent y accéder plus ou moins, mais là, c'était pas possible, sachant que les voitures sont très facilement identifiées, que les voitures israéliennes ont des plaques jaunes et les voitures palestiniennes des plaques vertes. Donc une plaque verte circulant sur une route de colons est immédiatement identifiable et c'est tir à vue, quoi. Donc les gens ont mis en place très vite des systèmes de circulation parce qu'il fallait quand même que la vie continue, fallait aller à l'université, fallait que les profs viennent enseigner à l'école, quand ils étaient dans les petits villages autour, fallait qu'ils rentrent dans la ville, fallait aussi quand même s'approvisionner. Et donc ils ont pris des petites routes, des pistes de montagne. J'ai vu des trucs hallucinants, quoi, des semi-remorques passant sur des tout petits chemins hyper pentus, enfin voilà. Et le 22 octobre, à Al-Houl en tout cas, l'armée a commencé à bloquer tous ces petits chemins-là aussi. Donc il n'y a plus moyen de circuler. Donc les cueillettes d'olives n'ont pas pu être réalisées, sauf à la proximité des habitations.
Mais aucun volontaire n'a pu arriver, puisque voilà. Les avions ont cessé leur vol très rapidement. Du coup, les gens qu'on attendait, nous, ne sont jamais arrivés. Alors, dans un premier temps, nous, on était dans un secteur où il y avait des vignobles, donc les vignes sont plus proches des villages ou des villes que les oliveraies. Donc, les cultivateurs là, ont décidé de continuer autant que possible à cueillir, à tenter de vendre leur production. Donc on a donné un coup de main, nous, dans un premier temps, pour les vendanges. Et puis les quelques, enfin la seule cueillette d'olives qu'on ait faite, en fait, c'est chez une amie quand on avait réussi à remonter vers le nord, et c'était juste à côté de chez elle, mais on n'aurait pas pu aller cueillir sur les parcelles des paysans, quoi, plus loin.
Quand on est remonté sur ce petit village au nord, là, Zaouïa, alors, donc on a réussi au bout de 3 semaines à quitter Hébron. On est passé par Jérusalem, on est allé à Ramallah, et donc on est passé 2, 3 jours à Zaouïa, donc beaucoup plus au nord. Et là, pour y aller, on était obligé d'emprunter des petits chemins, des toutes petites routes, etc. Mais il y avait un secteur sur lequel on était obligé de passer sur la route de contournement, là, la route des colons. Et là, on serrait vraiment les fesses. Le jour où on est passé, ben voilà, on est passé, on n'a pas été arrêté, voilà. Le lendemain, dont la voiture a été mitraillée sans aucune raison, quoi. Donc, et il est mort. Voilà. Et ça, c'était en continu. Et très vite, les camps de réfugiés ont été attaqués et ont pris bombardés. C'est-à-dire que, par exemple, à Jenin, il y a eu les premiers bombardements avec des hélicoptères et à Tulkarem avec des drones suicides, etc. Et l'armée dans les camps, dans les villes, dans les villages, souvent la nuit, mais pas uniquement.
Alors, il faut expliquer aussi que ces attaques de l'armée ont été en partie liées au fait que, sans doute on a entendu parler de ça, des travailleurs palestiniens originaires de Gaza, qui avaient une autorisation de travail en Israël, se sont retrouvés piégés le 7 octobre, puisqu'ils étaient au boulot, quoi. Et du coup, étant l'armée israélienne les a raflés, et puis en Cisjordanie, en
Sur les
différents
routes.
points sur les routes, ils s'en sont débarrassés comme ça. Et puis, au bout d'un moment, leur raisonnement, ça a été de dire: ah oui, mais tous ces gens-là, c'est des gens du Hamas, forcément, ils viennent de Gaza, donc c'est des terroristes. Donc, leur logique, ça a été: ben, on va les rafler à nouveau, on va les foutre en prison, et puis voilà. Donc, ben, ces personnes qui s'étaient réfugiées parfois dans des écoles, dans des centres communautaires, etc., il y en avait dans des camps de réfugiés aussi. Eh ben, ils ont été pourchassés par l'armée israélienne, et évidemment, l'armée, quand elle entre dans les villes, les villages, c'est en pleine nuit, c'est des dizaines de bagnoles blindées qui arrivent, et puis l'armée qui entre et qui casse tout, quoi. Il y a des alertes qui sont lancées par les réseaux sociaux, et en particulier les jeunes sortent pour essayer d'empêcher l'armée et à chaque fois, c'est l'occasion d'une répression terrible, quoi. À Ra'anana, par exemple, quand l'armée est entrée, il y avait 50 travailleurs de Gaza qui étaient réfugiés dans une école. Ils ont réussi à tous les choper, mais pour les choper, ils ont tiré dans le tas aussi des jeunes Palestiniens qui étaient là pour les empêcher de faire ce qu'ils avaient en tête. Donc, bah, par exemple, hein, on voit tout d'un coup un jeune qui arrive vers nous. Un gamin de 17 ans, et puis qui dit: ben, mon copain, il a été tué cette nuit. Et cette ambiance, c'est ça aussi. Enfin, ici, les gens ont du mal à se représenter au concret ce que ça veut dire, quoi.
En fait, la peur, elle est partout, quoi. Elle est vraiment partout. Les gens ont un sentiment d'horreur vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Et puis, il faut pas oublier que beaucoup d'entre eux ont de la famille à Gaza aussi, hein. Mais dans la vie quotidienne en Cisjordanie, c'est la peur, voire la terreur. surtout dans les camps de réfugiés et dans les petits villages. Dans les grandes villes comme Ramallah, c'est tellement grand que les gens peuvent continuer à avoir un semblant de vie ordinaire. Mais dans
c'est
les
une bulle, un peu
c'est une bulle, voilà. Mais dans les petits villages, les gens sont isolés et ils ont très très peur, quoi. Très très peur. Donc ça, c'était vraiment le quotidien.
Quand Joël dit il y a des gens qui ont de la famille à Gaza, nous on a une femme par exemple. Il y avait un rassemblement à Ramallah devant le siège de l'ONU. Organisé essentiellement d'ailleurs par des femmes, par des groupes de femmes. Et puis là, une dame là, elle vient d'apprendre 17 personnes de sa famille qui ont été tuées à Gaza.
C'était la veille. Et non. Cette femme, elle était très très digne, elle souriait, elle disait bonjour aux gens. Ses yeux étaient perdus, ses yeux ailleurs. Et une autre amie palestinienne qui la connaissait bien, quelques jours après, nous disait « En fait, c'est fou. Le coup, il faut avoir une force spirituelle, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire une force politique, une force religieuse, mais sinon on devient fou. »
Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'ai peur rien, c'est la vérité, vous effraie. Mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Et je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. T'as deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté brille comme le soleil, même partant orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine. Et les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent. J'écris avec le cœur et la raison. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Sans le cœur et la raison, non. Il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice ne sera jamais qu'une illusion. Pas de quiétude dans l'occupation. Au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante. Aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, l'apartheid se maquille et le mur sépare les familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif et complice des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés, à l'heure où j'écris ce texte, plus des trois quarts ont été pillés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Et leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des leurs. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On ne compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de noirs sont sous les décombres, de familles entières décimées par des bombes, d'assassinats dissimulés, foudroyant des civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire? Je suis censé vivre dans une démocratie, pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Car sans le cœur et la raison, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Sans le cœur et la raison, non, il n'y aura jamais de paix à l'horizon. Parlons de faits, pas de vision. La paix sans la justice, une illusion. Une illusion. Une illusion.
C'était le rappeur Kerry James qui interprétait Le cœur et la raison. Ce morceau de musique et cette prise de position datent de 2014. Depuis cette date, la situation à Gaza n'a cessé d'empirer, jusqu'à aujourd'hui en décembre 2023, où les massacres de Palestiniens sont une véritable tragédie qui continue toujours. Joël, membre de l'association France-Palestine Solidarité de Rennes, se trouvait en Cisjordanie au début de l'attaque meurtrière de l'armée israélienne sur Gaza. Elle a tenu un journal quotidien sur les réactions des Palestiniens face à cette catastrophe humanitaire. Joël a publié son journal sur un site internet qu'il serait intéressant de consulter pour avoir un témoignage en direct de la situation.
Alors justement, ce que vous avez écrit, Joël, est-ce que des personnes pourraient le lire? Parce que ce serait intéressant peut-être de votre compte-rendu quotidien. Est-ce qu'il est accessible ou est-ce que si des gens voudraient avoir plus de précisions, ils peuvent le lire?
Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, en fait, quand j'ai décidé de me mettre à fond dans ce truc-là, c'est parce que de toute façon, on était totalement impuissants. On voyait les bombardiers passer au-dessus de nous, on ne pouvait bien sûr pas les arrêter. On ne pouvait pas circuler, on ne pouvait pas aider pratiquement les paysans. Donc en fait, pourquoi on restait? Ben, on restait pour témoigner. Donc notre travail, ben, c'était ça. C'était communiquer des articles, faire le journal. Et d'ailleurs, les amis palestiniens nous entouraient nous mettaient sous une cloche de verre en disant non, non, ne faites rien. On n'a pas pu faire à manger, on n'a pas pu faire les courses. Leur objectif, c'était de nous dire faites votre travail, écrivez. On s'occupe de tout le reste. Voilà.
Et en l'occurrence, il y a déjà une publication de ces articles parce que quand on était là-bas, on envoyait évidemment à un certain nombre de correspondants. Ce qu'on écrivait, ou qu'on traduisait, puisque moi je me suis plutôt chargé de traduire des textes qui étaient publiés là-bas, soit sur des sites palestiniens, soit sur des sites anticolonialistes israéliens aussi. Et en fait, ici, par exemple, l'Union juive française pour la paix a les publié au fur et à mesure de leur écriture. Et du coup, évidemment, enfin, tout ce qui peut servir à faire comprendre, à aider à comprendre ce qu'est la situation là-bas. En l'humanisant, parce que je pense que ce qui se passe dans les médias, c'est plutôt, comme d'habitude, une espèce de compte-rendu lointain, distancié, déshumanisant, où les gens sont réduits à des statistiques, quoi. Il y a des morts, ouais, il y a tant de morts, et alors, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est extrêmement important d'arriver à faire prendre conscience du fait que c'est des gens comme toi, comme moi, comme nous. Enfin, ils nous ressemblent, ils ont les mêmes sentiments, ils ont les mêmes. Voilà, c'est ça qui est urgent, quoi.
Bon, mais ces textes sont aussi très intéressants parce que, bien sûr, il y a aussi les seuls qui restent en place, Al Jazeera comme journaliste, qui ont eu aussi des victimes, mais il y a aussi tout ce qui est justement intéressant, ce sont les anticolonialistes israéliens, parce que ça prouve qu'il y a encore un peu en Israël de gens qui sont conscients du problème.
Ah, je pourrais parler de ce qui s'est passé pour eux aussi dans l'immédiat après 7 octobre, quoi. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis ce qu'ils écrivent et en fait, il y a eu un grand moment de silence. Presque partout, toutes les ONG, les organisations de défense des droits de l'homme en Israël, etc. La première chose qu'elles ont commencé à publier, c'est comment dire un texte qui est un texte de témoignage du choc, quoi, et de alors les horreurs. Perpétré par le Hamas, etc., etc., en disant c'est ça, enfin on est choqué tout le monde, quoi. Et en fait le silence après était quelque chose de terrible, parce que il y avait cette affirmation là et il y avait plus les articles, plus ce travail qu'ils faisaient habituellement. On avait l'impression que tous, ils se demandaient comment continuer à écrire, quoi. Et puis on a eu de premières informations aussi, comme quoi, par exemple, la présidente d'une des organisations, alors qui s'appelle Yeshlin, qui est une organisation de défense des droits humains, qui travaille beaucoup sur le montage de dossiers sur la colonisation, etc. Cette femme, elle était entrée dans la clandestinité. Elle le disait. Elle disait, je me plains des menaces de mort. Il y a des menaces de mort contre moi, contre tous les militants des droits humains. Ça, je pense qu'il faut aussi arriver à le faire comprendre, à le dire ici, parce que c'est extrêmement dur pour eux, quoi, de continuer à tenir la rampe. Et puis voilà. Bizarrement, les tout premiers articles qui étaient publiés, je pense à un site qui est un site écrit en hébreu, rédigé en hébreu. En anglais, ils traduisent, ils disent local call, l'appel local, parce qu'en fait, c'est des organismes ou des personnes de la société civile qui proposent des articles et puis qui les publient de façon sur des sujets très très divers. Le premier sujet qui est sorti, le premier article sur Local Call, c'était un article sur l'école. Et le gars, qui est le spécialiste de toutes les questions qui touchent à l'éducation là-bas, son premier souci, c'était de dire, ben, si on avait un ministère qui faisait son boulot, il se préoccuperait de ce qui se passe dans la tête des gamins là et de la nécessaire résilience, quoi. Donc comment parler de ce qui se passe avec les gosses? Et c'était ça sa préoccupation. Et évidemment, c'était complètement, enfin, c'était juste, mais c'était décalé parce qu'on sait à quel point l'école israélienne est une école de l'endoctrinement aussi, où on fait de la préparation militaire, ou voilà. Donc, Donc, et puis peu à peu, quand même, on a retrouvé quelques articles, mais c'était quoi, un tous les deux jours ou tous les trois jours. C'était un rythme de publication qui était extrêmement ralenti. Donc des articles qui commençaient à parler en fait de la situation et de ce qui se passait à Gaza.
Alors est-ce que justement, est-ce que la presse palestinienne, palestinienne, bon, à Gaza, ça doit être très très difficile, mais est-ce que la presse qui est en Cisjordanie peut encore s'exprimer ?
La presse qui est en Cisjordanie, c'est la télé. Hein.
Ah. Non, il y a des journaux.
Bon, enfin, oui, il y a des journaux, mais bon, les gens, ils regardent. C'est bon, il y a des télés palestiniennes, mais beaucoup les télés arabes, voilà. Et là, c'était assez affligeant d'une certaine manière, parce que les régimes arabes n'ont strictement rien fait pour aider le peuple palestinien, et qui, pour beaucoup d'entre eux, s'apprêtait à signer Abraham de normalisation avec Israël. Après le 7 octobre, fusait à longueur de temps des clips où on voyait les combattants du Hamas sortant en ULM, ou en fait c'était loué à bon compte les actions militaires du Hamas. Voilà, c'était nos héros, nos martyrs, etc. Il y avait pas beaucoup d'analyse de fond, en tout cas au début, quoi. Donc ça c'était assez dur. Et autrement, je pense que ce phénomène de sidération, il a vraiment impacté tout le monde. Et la plupart des télés, en fait, se contentaient de filmer en plan fixe la bande de Gaza. Oui. Alors, il y avait des systèmes de fenêtres, donc la bande de Gaza dans son ensemble. Et puis, on voyait la caméra se déplacer au fur et à mesure des bombardements, à droite, à gauche, devant, etc. Et des plans fixes, soit sur l'entrée de l'hôpital principal du Nord, soit sur l'entrée de l'hôpital indonésien un peu plus bas, et où là on voyait les horreurs à longueur de temps. Et d'ailleurs, beaucoup d'associations de femmes de Ramallah réfléchissaient pour interpeller les directions de chaînes pour leur demander d'avoir des moments de pause. C'est-à-dire, certes, il fallait que la population soit au courant de ce qui se passait, mais c'était diffusé en permanence, et en permanence, y compris devant les yeux des enfants. Et donc, beaucoup de femmes disaient, c'est plus possible, il faut préserver les enfants. Les enfants de Ramallah voient à longueur de journée, au petit déjeuner, le soir avant de se coucher, des enfants décapités, brûlés. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait des moments où ça s'arrête pour essayer de reprendre pied avec la vie, quoi. C'était, en fait, on avait l'impression quand même que globalement, il s'agit pas de faire de caricature, mais les femmes semblaient se projeter plus dans l'avenir que beaucoup de militants hommes. On disait, il faut qu'on soit fort pour la suite. Comment on va faire pour être fort pour la suite? On est dans une nasse politique, on voit rien, mais essayons de réfléchir. En tout cas, par exemple, à Ramallah, il y avait des réunions de femmes plusieurs fois par semaine, et elles se posaient toutes ces questions-là, sur l'avenir, sur... voilà.
Alors pour la presse, il y a une presse écrite aussi en Cisjordanie. À la fois, il y en a, j'ai un exemple, Al-Quds, c'est le grand quotidien écrit à Jérusalem. Il y en a aussi à Ramallah, et ils font le boulot. Enfin, il y a un site, par exemple, d'Al-Quds sur Internet, sur lequel on peut régulièrement voir des informations, des analyses, etc. Y compris des analyses parfois extrêmement critiques vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Néanmoins, ce qu'on observe aussi, c'est la pression terrible qui est mise en place pour empêcher ces gens-là de faire leur travail. Hier, par exemple, ou avant-hier, je crois que c'est avant-hier, un analyste, un politologue palestinien qui écrit dans ses journaux, a été arrêté par l'armée israélienne. Donc, il y a une pression très forte. Il y a énormément de journalistes qui ont été touchés, pas seulement à Gaza. À Gaza, il y a des journalistes qui ont été tués, dont la famille a été massacrée, etc. Mais en Cisjordanie également, il y a des journalistes qui ont été blessés, qui ont été arrêtés. Il y en a énormément qui sont en prison, en détention administrative actuellement. Donc c'est une réalité qu'il faut évidemment avoir présent à l'esprit, quoi. Côté israélien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que après cette sidération, là, très vite, il y a quand même un journal comme Haaretz, par exemple, qui a commencé à publier des articles critiques sur ce qui se passait. Ils ont commencé à faire un travail aussi d'enquête auprès de militaires qui ont été engagés dans les combats, dont certains ont dit, bah, par exemple, sur l'histoire de la Rêve Partie au sud de Gaza, là-bas, qui disait, moi j'étais dans l'hélico, et puis on croyait qu'en bas c'était des gens du Hamas et on a tiré. Donc, des témoignages de cet ordre-là, il parle aussi de ce qui s'est passé dans les kibbutz le long de la frontière, là, et ils attestent du fait que des militaires israéliens ont tué des Israéliens dans cette affaire. Donc, ce qui a valu d'ailleurs de la part du ministre de la Communication israélien, une condamnation de Haaretz et une décision, une notification de décision, comme quoi les ressources publicitaires en particulier émanant des services publics israéliens, serait désormais interdite à Haaretz. Donc, des systèmes de pression et de censure sont à l'œuvre, de fait. Alors, c'est pas de la censure, on coupe l'article, c'est on met en place toutes les conditions, en fait, pour empêcher les gens de faire leur boulot. Et puis, ce qu'on ne sait pas aussi, ou ce qu'on sait trop peu ici, c'est quelles sont les répercussions pour les Israéliens qui, concrètement, au quotidien, s'engagent pour contester l'agression militaire. Par exemple, je pourrais citer le cas de deux jeunes étudiants juifs israéliens à Haïfa, qui font un bombage sur les murs de la mairie de Haïfa en écrivant tout simplement « Mais qu'est-ce qui se passe à Gaza ? Qu'est-ce qui se passe à Gaza ?» Ils sont arrêtés par les policiers, mis en prison, détention, comment on dit, garde à vue ici, et puis ils passent au tribunal. Alors en fait, le tribunal, bon, ils y vont pas parce que tout se passe en visioconférence, là, comme nous en ce moment. Il y a une caméra, ils sont en prison, il y a des flics autour d'eux, et la présidente du tribunal est là-bas de l'autre côté. Ils n'ont jamais pu voir leur avocat. L'avocat est lui-même en visioconférence à partir d'un autre point, mais ils n'ont jamais eu accès à l'avocat dans le poste de police. Et au bout du procès, la présidente du tribunal dit dégradation de biens publics dans le code, quand on regarde, il faudra réparer, une amende, etc. Rien n'est écrit justifiant votre maintien en prison, mais vous resterez en prison parce que vous êtes un danger pour Israël. Ce qui signifie que à des citoyens juifs israéliens, on applique le régime qu'on a toujours appliqué aux Palestiniens, à savoir un régime au droit, qui est un régime militaire, de contraintes militaires, et qui, du coup, les assigne à la détention administrative pour des durées qui sont évidemment imprévisibles. Récemment, Norit Peled El-Hanan devait intervenir dans un débat organisé à distance aussi à Rennes, et puis dans la visio, on la voit pas. Puis on voit son fils qui s'installe. Alors Norit Hanan, il faut savoir que une de ses filles a été tuée dans un attentat perpétré par le Hamas dans les années 2000. Elle s'est engagée dans la constitution d'une association rassemblant des parents de victimes d'attentats, mais aussi de parents de jeunes Palestiniens, soit qui se sont engagés dans des actions terroristes, soit qui ont eux-mêmes été victimes de l'armée israélienne. Avec cette idée qu'il y a quelque chose à faire ensemble pour sortir de ce merdier, quoi. Et donc, Guy, son fils, dit, elle n'a pas pu venir parce que elle vient d'être arrêtée par la police israélienne et elle est actuellement en train de répondre à un interrogatoire sous le prétexte que ses prises de position la rangent dans les partisans de Hamas. C'est effrayant, cette logique-là. Les gens, on assigne les gens à résidence, quoi. Vous êtes opposé à ce qui se passe, vous êtes opposé à la violence effrénée de l'armée, donc vous êtes complice de nos ennemis, donc vous êtes notre ennemi. C'est abominable.
Au terme de notre émission, je tiens à remercier Joël et Dominique, membres de l'association France-Palestine Solidarité de Rennes, d'avoir accepté de livrer à l'Union pacifiste leur témoignage sur la situation catastrophique en Palestine. Et surtout, avec ce regain de violence dans une guerre qui dure depuis plus de 70 ans et dont on ne voit pas encore aujourd'hui l'issue. Nous craignons bien sûr que le nombre de victimes de cette guerre ne cesse de grandir au fil des jours, puisque le gouvernement fasciste d'Israël s'obstine dans un objectif qu'il ne pourra jamais atteindre, éradiquer le Hamas. Il ne pourra jamais l'atteindre tant que les pourparlers ne pourront pas reprendre pour tracer un chemin vers la paix. Et nous terminons l'émission avec un hommage que le musicien Bilal a dédié au peuple palestinien. Cet hommage commence d'ailleurs donc par des paroles de l'abbé Pierre. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Résistant comme le Tché, donc je me bouge pour les miens. Pourquoi me t'appeler en Versace quand un peuple crève de faim? Palestine, je t'aime, mi amor. Je m'en fous, je porte mes couilles, quitte à risquer une mise à mort. Je veux pas être complice, donc je rappe, je témoigne. Hagra international, je suis au bord des larmes. Quand je pense au petit Mohamed, fusillé dans les bras de son père. Ils l'ont tous vu, mais ils préfèrent tous se taire. On est tous frères, salam ou shalom. Mais faut croire que l'hypocrisie est le sens le plus développé chez l'homme. Faut prendre sur soi, tant qu'il y a de la vie, y a de l'espoir. Je le crierai même si je suis le seul à y croire. Avec une enclume dans la gorge, je me console en me disant ce qui nous tue pas, c'est ce qui nous forge. Pour la mort d'un seul homme, il t'appelle une balistique et préfère fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine. Je suis pas antisémite, non, bien au contraire, je viens dénoncer un génocide qu'ils essayent de maquiller en guerre. Des chars face à des pierres, ils accumulent les tombes des mômes face aux militaires. Tout ça aux yeux du monde, ils sont injustes et malhonnêtes. Les SOS sont baïonnés. Je rappe avec l'espoir qu'un jour la paix puisse rayonner. C'est juste un constat, les plaies s'empoisent avec le temps. Ils violent les droits de l'homme et je me demande que fait l'OTAN.
Jai Allah.
forte. Je voudrais être ce parapluie quand sur les joues d'un peuple il pleut des cordes. J'ai honte d'être à l'abri, honte de ce confort. Je me sens lâche, rongé par les remords. C'est Dieu qui veut, j'espère que sa grâce n'est plus très loin. Qui vous protège de l'atrocité de l'être humain. La haine attise la haine, j'envoie l'ONU et ses déboires. Pour non-assistance à personne, agissant dans le désespoir. C'est juste un triste constat. J'suis venu en paix. J'suis venu en paix. J'suis venu en paix, moi.
place au chômage et des promesses. Pays du futur, mais rien ne presse. Elle a un peu les pieds dans l'inflation qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les porteurs sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés,
mais les porteurs sont fatigués. Mais les porteurs sont fatigués.
Investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand il n'y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminer les rêves d'argenter, c'est pour les poètes et pour la rime. Dont l'euro dollar les a usés, mais les porteurs sont épuisés.
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Yves au micro, ce soir c'est une émission enregistrée, alors inutile d'appeler. Vous pouvez comme d'habitude m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Vous pouvez vous connecter sur le site de la radio, radiolibertaire.org. N'oubliez pas de télécharger la souscription, nous avons besoin de votre aide pour renouveler le matériel, pour maintenir une radio de qualité. Vous pouvez et vous devez consulter ma page Facebook, vous avez également la possibilité de réécouter l'émission en podcast pendant 12 mois après la fin de la diffusion. N'oubliez pas d'aller sur le site de la radio où l'agenda est mis à jour régulièrement avec l'ensemble des émissions, dont la mienne. Et de consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre, je pense vous l'avoir dit, et de temps en temps ma page Insta Jazz Libre l'émission, mais c'est assez plus rare. Si vous avez besoin d'infos, de playlists, d'informations concernant l'émission ou d'autres choses concernant le jazz, vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu particulière. La dernière de l'année, je pensais vous faire part des nouveautés. Mais le pianiste Michel Sardabi nous a quittés le 6 décembre dernier. Et il se trouve, bon, et là c'est assez personnel, qu'il a été mon prof de piano pendant quelques années. Et donc je voulais lui rendre hommage ce soir. Donc vous allez me dire, c'est encore une nécro, malheureusement. Donc il avait 88 ans, bon il avait eu quelques problèmes de santé, et donc voilà, je voulais en parler depuis fort longtemps, je vous en parlais de temps en temps, mais bon là il se trouve que c'est malheureusement l'occasion de se réapproprier un petit peu sa musique, et disons... remettre en place un musicien qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Certes, il s'est beaucoup consacré à l'enseignement. Ça a été vraiment quelque chose chez lui de très important de communiquer, de transmettre son savoir. Mais malheureusement, il a été relativement connu et ce petit heure de gloire dans les années 70-80. Et puis petit à petit, ça s'est pas mal atténué, voire même un peu disparu des radars. Et c'est bien dommage. Et nous allons reprendre un petit peu l'ensemble de sa carrière. et de sa parution, de sa discographie, pardon, qui est relativement faible, mais néanmoins il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes, et nous allons voir ça plus en détail. Alors, trêve de blabla, nous allons commencer, avant d'aller plus loin dans sa biographie, par écouter de la musique, voilà, tout simplement. Alors là, il s'agit d'un disque qui est sorti plus tard, mais qui a été enregistré en 1964. En fait, ton premier disque était Nightcap, mais celui-ci s'appelle Con Alma, il est avec Michel Finet à la contrebasse et Philippe Combel à la batterie. Et alors, je n'ai pas réussi à savoir qui était le percussionniste, parce qu'il y a un percussionniste dans ce thème, dans ce disque, pardon, qui est donc été enregistré en 1964, mais qui est sorti dans les années 90 et a priori uniquement au Japon. Donc voilà, tout ça vaut cassette, hein, comme.